Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Bonjour à toutes et à tous. Une authentique catastrophe écologique est en cours depuis une semaine en Gironde. Au moins 19 000 hectares de pins brûlés, calcinés. Les pompiers font face malgré des conditions météo toujours plus compliquées. Les feux détruisent la végétation et des lieux de tourisme. Des campings ont été détruits. Comment mieux anticiper ces catastrophes appelées à se reproduire à l'avenir? Les moyens actuels sont-ils suffisants? Perfectible. Nous en parlons avec un porte-parole des pompiers de Gironde et nos débatteurs du jour, Anne Jeunetet, députée Renaissance des Français de l'étranger, et Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Avec eux, nous parlerons aussi d'ailleurs du projet de loi pouvoir d'achat en cours d'examen à l'Assemblée nationale dans un climat pas toujours très serein, vous l'entendrez. Nous parlerons aussi de la renationalisation d'EDF. Ce sera via une OPA à près de 10 milliards d'euros de l'État. Et puis l'information sportive, la 16e étape du Tour de France, la première dans les Pyrénées aujourd'hui. Richard Virenque sera avec nous vers 12h50. Bienvenue à tous.
Europe 1.
Situation toujours incontrôlable en Gironde, donc chaque jour un bilan environnemental plus lourd. En une semaine, 19 000 hectares de pins ont brûlé, dont 6 500 dans les environs de la Teste de Buche, où, on le précise, il n'y a aucune victime. Il y a eu de nombreuses évacuations préventives. Le bassin d'Arcachon, où nous retrouvons Stéphane Place. Stéphane, le feu n'est toujours pas fixé.
Oui, en effet, après avoir traversé ce matin le lotissement des Miquelots à la lisière de la forêt ici à la Teste, où les pompiers sont toujours prêts à défendre les maisons, il n'y a d'ailleurs eu aucune destruction cette nuit. Nous voici sur la départementale 259 qui nous mène au Pila. Les pompiers de la sécurité civile coupent des broussailles. La largeur de la route goudronnée risquant de ne pas suffire, on élargit en fait la zone où les flammes, si elles devaient arriver ici, n'auraient rien à dévorer. Ce que redoute le commandant Castel, ce sont les sautes de feu qui peuvent être spectaculaires.
On a eu une saute même à 1 km quasiment. Vous avez les écorces de l'arbre comme ça qui éclatent et puis qui sont tellement légères parce que c'est vraiment la couche superficielle de l'écorce qui plane complètement comme une feuille de papier avec l'air chaud en plus qui est dégagé par le feu. On est à des hauteurs déjà, elle part d'une hauteur de quasiment 30-40 mètres avec la hauteur des pins et elle vient se déposer à plus de 400 mètres en fonction du vent et autres.
Mobilité, le maître mot de la stratégie qu'applique ce groupe de pompiers avec ses camions. L'adjudant-chef Julien.
Là, on est sur ce qu'on appelle une ligne d'appui. Le but du jeu, en fait, c'est que nous, le feu, à cet endroit-là, il ne doit pas passer de l'autre côté. On le laisse arriver et pour l'instant, ce matin, il n'est pas virulent par rapport au vent. On va laisser en fait brûler toute cette bande-là pour éviter que derrière, si ça reprend, en fait, tout ce qui a brûlé, ça ne peut pas rebrûler. C'est de contenir en fait l'incendie.
Et ici, vous l'entendez, au-dessus de la dune du Pila, on voit de nouveau passer les canadairs ce matin, alors qu'est annoncée une reprise du vent dans l'après-midi.
Stéphane Plat. Le brasier de la Teste de Buche fait également d'énormes dégâts dans les lieux touristiques. 5 campings ont été détruits ces dernières heures. 5 campings dont le mythique camping des Flots Bleus, rendu célèbre par la saga Camping avec Franck Dubosc. Dans la vraie vie, le camping des Flots Bleus s'appelle le camping La Dune. Son directeur, Franck Couderque.
Pour certains, c'est toute une vie. Ma responsable réception, ça faisait 35 ans qu'elle était là. D'autres ont venu de leur signer un CDI, donc ils avaient trouvé du travail, une nouvelle stabilité. J'en ai la moitié qui s'était installée justement sur le camping pour 2 mois pour être au plus près de leur travail. Ils ont perdu toutes leurs affaires. Et voilà, on perd tout en peu de temps. Alors certains vont me dire c'est que matériel, mais voilà, y a des choses importantes aussi.
Le directeur du camping La Dune, Franck Couderque, invité de la matinale d'Europe 1 avec Thierry Dagiral. Vous l'avez entendu, ces campings brûlés, cela signifie des professionnels qui perdent tout. Le gouvernement réfléchit à des solutions pour soutenir les professionnels de la Teste de Buche du bassin d'Arcachon. Olivia Grégoire l'a annoncé à la presse ce matin.
Nous prendrons des mesures pour protéger les campings qui ont été très lourdement affectés, des mesures de soutien. Nous sommes aussi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings les commerces, les artisans, les petits restaurants, les sandwicheries, les glaciers, tous celles et ceux qui vivent du tourisme en été autour de ces campings pour voir comment il serait possible, bien sûr, d'enclencher leurs assureurs et leurs assurances pour les accompagner, mais aussi peut-être de les aider pour un certain nombre d'entre eux. Dès aujourd'hui, dans les prochains jours, le gouvernement prendra des mesures et s'assurera auprès des autres acteurs économiques comme les assureurs de la bonne protection de leur patrimoine. Au-delà de la compassion, il nous faut être absolument rapidement dans l'action.
Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises ou encore du tourisme. Voilà la situation dans le bassin d'Arcachon dont beaucoup de monde est témoin. C'est un lieu très prisé des estivants et où l'on croise de nombreuses personnalités. Lui, il y est toute l'année. Nous sommes en ligne avec Joël Dupuche, connu comme Jean-Louis, le gars des huîtres dans Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant d'être un acteur, vous êtes un ostréiculteur. Vous avez votre négoce au Cap Ferret, le parc de l'Impératrice. Que voyez-vous? Que sentez-vous de là où vous êtes?
Ben écoutez, nous sommes pile en face de la Teste et d'Arcachon. Donc, on voit en permanence l'évolution, les feux qui se déplacent en fonction des vents. Hier, par exemple, on n'y voyait rien. On avait toute la fumée. Les vents dominants amenaient la fumée ici. On avait une impression de fin du monde avec... Tout était voilé, le soleil était comme si on avait mis des papiers mat devant. C'est très, très pas angoissant pour nous. C'est terrible parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de souffrance en face, enfin chez nos amis d'en face, que l'on ne peut pas maîtriser. On a l'impression que ce n'est pas maîtrisé.
Ouais,
hier, les feux étaient à droite, aujourd'hui, ils sont à gauche, il y en a partout. Quoi.
Et vous avez proposé vos services de l'aide?
Bah, on a proposé à tous nos copains qui sont évacués de venir rapatrier chez nous. On leur a proposé de leur prêter des camions pour aller chercher. Mais le problème, c'est que ou vous êtes des professionnels du feu et vous pouvez aller aider les gens du feu, ou vous n'êtes pas des professionnels et vous allez aider personne, vous allez les ennuyer plus qu'autre chose. Voilà, c'est trop technique. C'est trop technique, trop violent et trop terrible pour qu'il y ait du bénévolat, de bonne volonté. C'est pas suffisant. Après, on peut aider à héberger les gens, on peut, mais je crois que le combat du feu, c'est vraiment un truc de grand professionnel.
Merci beaucoup, Joël Dupuche, d'avoir réagi, d'avoir témoigné sur Europe 1 aujourd'hui. Allons maintenant sur l'autre front, l'autre grand incendie progressant en Gironde, dans les terres, à Landiras. L'origine serait criminelle, d'après l'enquête toujours en cours. Un homme était en garde à vue hier, d'ailleurs. Le feu continue, là encore, sa progression. Il a détruit, dévoré près de 13 000 hectares. Ça devrait encore s'alourdir aujourd'hui en raison de conditions météo défavorables, notamment les vents. Vincent Ferrier et le sous-préfet de Langon.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les vents n'ont pas encore basculé à l'est. Les vents sont en train de remonter vers le nord et basculeront plus tard que prévu vers l'est. Tous les secteurs à l'est du feu sont des secteurs qui ont été évacués. Et ensuite, les vents vont se retourner direction plutôt sud-est. Donc nous aurons encore à évaluer tout au long de la journée. Nous n'avons pas pris de décision à ce stade de potentielles évacuations, mais nous essayons toujours de les ajuster au mieux et nous voulons éviter de nous retrouver dans des situations où nous devons évacuer alors que l'urgence est aux portes de la commune. Les pompiers qui interviennent définissent des secteurs, mais quand le vent tourne, eh bien, le feu se déplace et bouleverse un peu cette organisation. Il faut en permanence réajuster le dispositif et donc le travail du commandant des opérations de secours est donc de s'assurer qu'on n'ait pas de zone qui nous échappe, de contrôler le feu.
Le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, au micro européen de notre envoyé spécial Clément Barguin. Et dans le secteur de Landiras, 8000 personnes ont été évacuées, 37000 au total en Gironde, où un troisième incendie a débuté hier dans le Médoc, 70 hectares brûlés. Et puis en Bretagne, où des records de chaleur ont été battus hier, de la végétation partie en fumée, 1400 hectares à peu près, dans le Finistère, dans les Monts d'Arrée. 260 sapeurs-pompiers et 50 véhicules spécialisés sont déployés. Le Finistère et la Gironde qui ne sont plus menacés par la canicule, ils ne sont plus en vigilance rouge ni même orange. 70 départements le restent toutefois encore aujourd'hui avec toujours de très fortes températures, près de 40 à Montélimar ou à Paris. La région parisienne devrait vivre sa pire journée. Ça devrait être tendu également dans le centre d'appel mis en place par le ministère de la Santé. Vous savez, le fameux numéro vert, très sollicité par les Français. Arthur Pereira a passé la journée d'hier dans le centre d'appel de Romainville où le téléphone sonne à peu près 250 fois par jour.
Canicule Info Service, bonjour Isabelle, à votre écoute, que puis-je pour vous? C'est peut-être pas la bonne chose de mettre un pull, hein. Ne mettez pas un pull, même si vous avez des frissons, ne mettez pas un pull, madame. Privilégiez un vêtement en coton qui va laisser circuler l'air et évacuer la transpiration aussi. Au vu des symptômes que vous me dites, madame, ce ne sont pas des symptômes tout à fait normaux. Donc ce serait bien d'appeler SOS médecin.
La dame n'allait pas bien là?
Oui, elle n'est pas bien, elle n'arrive pas à boire, elle avait la nausée, apparemment
elle a des frissons.
Vous parlez de personnes en détresse, quel genre de détresse ?
Beaucoup de seniors qui sont souvent seuls, donc c'est quand même une situation qui est très anxiogène pour eux. C'est important qu'ils puissent nous avoir rapidement pour qu'on puisse déjà les écouter, leur expliquer les gestes qu'ils connaissent aussi déjà un petit peu, mais ils ont besoin qu'on leur répète.
Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer ?
Bien fermer chez elles, enfin les volets, choses comme ça.
Donc votre rôle aussi, c'est de bien les aiguiller en fait ?
On n'est pas médecin, mais on a été formé quand même pour pouvoir apporter des réponses et surtout bien les diriger. Et là, en l'occurrence, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est tout de suite un médecin.
Donc là, ça ne va pas arrêter jusqu'à la fin de la semaine avec ces chaleurs ?
Là, ça ne va pas arrêter. C'est sûr, c'est encore décrocher, raccrocher, décrocher, raccrocher. C'est notre travail et puis on aime rendre service.
Le reportage d'Arthur Pereira, le point météo tout à l'heure avec Anthony Kazmarek. Le bras de fer s'est engagé hier à l'Assemblée nationale avec le début de l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. Plus de 1000 amendements déposés par les oppositions. Ils seront débattus, mais une toute petite partie devrait être adoptée. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelait au compromis hier et refusait d'engager des dépenses, je cite, excessives. Nous en parlons avec nos débatteurs tout à l'heure. Cela devra aussi recevoir le feu vert des députés. Il faudra que ce soit budgété dans un projet de loi de finances. On connaît depuis ce matin le plan du gouvernement pour renationaliser à 100% EDF. Margot Faudéré, l'État, déjà détenteur de 84% du capital, va procéder via une OPA.
Oui, concrètement, l'État a l'intention d'acquérir 15,9% des actions de l'entreprise et 60% des obligations à actions de conversion, dites Océane, qu'il ne détient pas. L'État propose une offre à 12 € par action et 15,64 € par Océane, une opération qui devrait donc coûter 9,7 milliards d'euros. Maintenant que l'annonce a été faite, il reste encore quelques étapes. Tout d'abord, le Parlement doit approuver les crédits demandés par l'État pour réaliser cette opération dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif pour 2022. Ensuite, l'État devrait déposer son projet d'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, d'ici à début septembre. L'offre serait ouverte dans les derniers jours de septembre et se clôturerait mi-octobre, car l'objectif, c'est de retirer l'entreprise de la bourse d'ici à fin octobre, un retrait qui deviendra obligatoire dès lors que l'État détiendra plus de 90% du capital d'EDF.
Margot Faudéré, l'action EDF à 12 € aujourd'hui, elle valait 32 € en 2005 lors de l'introduction en bourse. L'action EDF est de nouveau cotée ce matin après l'annonce du gouvernement. Elle a bondi de 15%. Avant le sport, écoutons cette voix rauque, magnifique. Elle s'est éteinte ce matin, celle de Dany, décédée à 77 ans. Vous l'entendez interpréter comme un boomerang en duo avec Étienne Dao. C'était en 2001. À l'occasion d'un comeback de Dany, autrefois mannequin ou encore meneuse de revue, comme un boomerang.
Comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire qu'à la bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés.
Voilà, Dany décédé à 77 ans ce matin. L'actualité sportive à présent avec du football. Les Bleus ont fini leur phase de groupe à l'Euro avec un match nul un partout contre l'Islande hier soir. La France fait l'essentiel en terminant en tête du groupe. Corinne Diacre, la sélectionneuse, est satisfaite, même si elle aurait préféré une victoire.
Je pense qu'on a vu une belle équipe de France qui s'est un peu plus lâchée en deuxième mi-temps. Je trouvais qu'on avait un visage un peu meilleur, surtout un petit peu plus de justesse technique en deuxième période. Les entrantes ont fait du bien. Je nous ai trouvé avec un petit peu plus de fraîcheur physique également. Très sincèrement, les filles ont répondu présentes, elles ont fait les efforts.
Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France de football. Le quart de finale de cette Euro 2022 en Angleterre, c'est samedi contre les Pays-Bas. 16e étape du Tour de France aujourd'hui. Les coureurs s'élancent de Carcassonne pour rejoindre la ville de Foix. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard. Et il faut regarder un peu plus bas dans le classement, à la 4e place, pour trouver le premier Français, Romain Bardet. Le coureur de la DSM espère terminer plus haut, mais ne vivrait pas forcément mal une place dans le top 10. Comme il l'a confié au micro Europe 1 de Martin Lange sur les routes du Tour.
C'est plus dur de faire un classement général que de se relever certains jours et d'aller à fond pour le victoire d'étape. Une place dans le top 7, top 8 sur le Tour de France, je pense que c'est vraiment déprécié parce que les efforts à consentir pour y arriver, être à ce niveau-là, c'est immense. Et c'est pas un one shot sur 21 étapes, c'est 21 étapes à fond.
Romain Bardet au micro de Martin Lange. Nous reparlons du Tour de France tout à l'heure vers 12h50 avec Richard Virenque.
Allez, la météo, Anthony Kazmarek, 70 départements sont en vigilance orange canicule.
Exactement, quasiment tout le pays, sauf le littoral méditerranéen, le massif central et la façade atlantique qui est sorti ce matin de la vigilance rouge. Avec un soleil encore ultra dominant, écrasant sur toute la partie est du pays. Quelques orages possibles dans les Alpes du Sud et ce vent de sud qui souffle très chaud dans la vallée du Rhône. À l'ouest, quelques nuages s'infiltrent, pouvant déjà donner un orage vers la Normandie dans l'après-midi. Et puis surtout ce soir, attention à ces orages qui vont se former. Entre le sud-ouest et le massif central, 11 départements sont placés par Météo France en vigilance orage orange. Orage violent entre l'ouest des Pyrénées, la Dordogne et la Creuse. Prudence sous ces averses, risque de grêle et de fortes rafales de vent. Et puis ce vent d'ouest apporte enfin de la fraîcheur sur toute la côte atlantique. Il ne fera que 25 degrés à La Rochelle aujourd'hui contre 42 hier, 23 à Brest, 25 à Biarritz, mais encore 35 degrés à Marseille, 36 à Toulouse, 38 à Strasbourg et Grenoble, 39 à Lyon et Clermont-Ferrand. La maximale, ce sera pour Paris et Auxerre avec 41 degrés. Demain, on va enfin respirer partout. Sauf dans le sud-est où là on aura encore de fortes chaleurs.
Merci Anthony Kazmarek pour la météo.
Europe 1. Le choix de Mola.
Le choix de Mola comme tout l'été dans Europe Midi. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Vous nous parlez d'une lecture qui nous conduit sur les pas d'un serial killer français qui fut d'abord gendarme puis policier. Et puis dans les années 80, un assassin dont la véritable identité n'a été révélée qu'en septembre 2021. Il se savait sur le point d'être démasqué durant plusieurs décennies. Sa traque a viré à l'obsession pour la police judiciaire qui avait surnommé ce meurtrier le Grêlé. C'est le titre, Stéphane, de l'excellente enquête que signe Patricia Touranchot.
Oui, c'est l'annonce d'un suicide il y a bientôt un an, en septembre 2021, qui a mis fin à cette énigme policière qui a hanté les nuits des flics du 36 quai des Orfèvres durant un tiers de siècle. Depuis le printemps 86, depuis le meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, la brigade criminelle a traqué ce tueur en série qui avait été surnommé le Grêlé. Un portrait robot montrait un homme à la peau du visage abîmé, insaisissable meurtrier et violeur qui se présentait à ses victimes comme un flic. Ce qu'il était, d'abord gendarme, puis motard de la police, bon père de famille, effroyable pervers, c'est cette double personnalité, ce parcours criminel que raconte dans ce livre Patricia Touranchot avec sa parfaite connaissance du dossier et des acteurs de ce cold case hors norme, Émilie Sabatier, libraire chez Mola.
Patricia Touranchot mène son récit avec tellement de précision. Toute l'époque est retracée. La psychologie de ce tueur en série, le Grêlé, qui est quand même une double personnalité. Et c'est tout à fait une lecture effrayante, mais dans laquelle on ne peut pas s'empêcher de continuer à avancer.
Journaliste spécialiste des faits divers, Patricia Touranchot entend parler de la traque du Grêlé dès la fin de l'année 1990. Une affaire tentaculaire.
35 ans de traque du Grêlé, ça ne se résume pas. C'est bien pour ça que je consacre un livre à cette affaire. Parce qu'on n'imagine pas le nombre de cas, de dossiers, parfois des délits. Bon, il y a des crimes, des assassinats, des viols, des agressions sexuelles. Des jeunes filles qui sont juste, entre guillemets, abordées par un type qui se présente avec une carte tricolore. Il a un talkie-walkie, il a une arme, il se présente comme un policier, il contrôle des jeunes filles. Donc ce sont des cas disparates, instruits, enquêtés, investigués par des services totalement différents. Et puis il y a des tas de fausses pistes. Ces 35 ans d'enquête chaotique, je les déplie, si vous voulez, dans l'ordre chronologique, à part le prologue qui est vraiment axé sur le dénouement et sur comment moi je réagis à ce dénouement, l'identification de François Vérove. Sa femme n'a jamais rien remarqué. Elle dit que c'était un mari prévenant, attentionné, et personne n'a jamais rien remarqué. À l'intérieur de ce type, sous la même carapace en fait, cohabitent véritablement Dr Jekyll et Mr Hyde.
C'est la comparaison ADN qui permettra d'identifier enfin le Grêlé qui avait su échapper aux investigations pourtant acharnées de ses propres collègues pendant 35 ans.
Le choix de Mola avec Stéphane Place à Bordeaux, c'est à retrouver tout l'été sur Europe 1.
Europe Midi.
Place au débat dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui avec Anne Gentet, députée Renaissance des Français de l'étranger. Bonjour.
Bonjour.
Et le député LR Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. Bonjour.
Bonjour.
Et on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
Europe Midi. Midi 30, 13h.
Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous tout l'été sur Europe 1. Place au débat. Maintenant, j'accueille également le lieutenant-colonel Arnaud Mandous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes officier de communication pour le SDIS de la Gironde et avec vous, j'aimerais qu'on parle de ces incendies extrêmement graves, extrêmement destructeurs. Les opérations durent depuis une semaine. Alors, ils sont causés par l'homme de façon criminelle ou accidentelle, mais ils sont attisés par des conditions extrêmes, très probablement liées au dérèglement climatique. Et en Gironde, certains parlent de moyens de lutte contre les feux insuffisants. Un syndicat de pilotes de l'aviation civile déplore notamment un manque de marge de manœuvre pour mener des opérations optimales. On manque de mécaniciens, de pilotes d'avions spécialisés dans l'extinction d'incendies. Vous confirmez ce constat? On manque de moyens aujourd'hui?
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un énorme dispositif pour venir à bout de ces deux incendies, que nous disposons également de beaucoup d'avions, de la sécurité civile. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous manquons de moyens. C'est plus les conditions de lutte aujourd'hui qui nous sont défavorables.
Voilà, parce qu'on le rappelle, on a l'une des flottes aériennes les plus puissantes d'Europe, si ce n'est la plus puissante, 21 avions dédiés à la lutte contre les incendies, 4 hélicoptères, mais ils ne peuvent pas fonctionner comme ça, hein. Il faut des opérations de maintenance très importantes. Vous confirmez, hein?
Oui, effectivement. Hein. Donc c'est une flotte gérée au niveau de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui en fait répartit en fonction des besoins sur l'ensemble du territoire national ses moyens.
Anne Genetet, en vue, on anticipe hein, des phénomènes similaires à répétition. Vous ne pensez pas qu'il va falloir renforcer?
Absolument, et ça a été tout à fait anticipé. Les 5 années qui ont précédé, d'abord, permettez-moi de rendre hommage aux plus de 1500 pompiers qui sont engagés, volontaires et professionnels, et plus de 3000 pompiers sur l'ensemble du territoire qui sont mobilisés pour venir à leur secours. Les moyens donc aériens que vous avez cités, que nous avons, les populations civiles qui essayent d'héberger les populations déplacées, donc des gros moyens mis en œuvre. Oui, nous avons déployé des moyens au cours des 5 années passées. Ce sont plus de 200 millions d'euros supplémentaires qui ont été mis sur la table et qui ont permis, par exemple, ces avions, de gros avions de transport et de bombardement d'eau qu'on appelle les DASH, qui, on en avait 2 en 2019, on en a 6 maintenant, on en aura 2 de plus en 2023. Donc il y a vraiment un effort qui est fait parce qu'on voit qu'avec le réchauffement climatique, le risque d'incendie est de plus en plus présent, de plus en plus important, y compris dans des lieux qui n'étaient pas destinés, donc on ne connaissait pas nécessairement ces incendies, la Bretagne encore il y a ces jours-ci. Et donc il faut des moyens supplémentaires. Au total, c'est un budget qui était de l'ordre de 700 millions d'euros pour la sécurité civile et on passera à plus de 800, presque 900 millions d'euros dans les 5 ans qui viennent. Donc on a anticipé.
Pierre-Henri Dumont.
Écoutez, je tiens également à rendre hommage à l'ensemble des pompiers, sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur l'ensemble de ces incendies. J'ai une pensée particulière pour le détachement du SDIS du Pas-de-Calais, qui, en tout cas, un détachement a été envoyé en Gironde. Et en effet, on a une flotte des moyens aériens, en tout cas, qui est vieillissante, 22 ans de moyenne d'âge, avec des problèmes de maintenance qui sont de plus en plus récurrents. Hein. On a un tiers de la flotte qui est régulièrement clouée au sol. Alors, ça tourne pour des problèmes de maintenance. Et donc, en effet, il faut savoir s'adapter à l'évolution. On a une remontée géographique des incendies qui, auparavant, était plus ou moins circonscrit à la région sud, à la Corse, et où là on voit des incendies qui remontent, qui dépassent la Loire, qui vont en effet en Bretagne. Et donc on a besoin de plus de moyens parce qu'on sait que quand on doit traiter un incendie pour éviter qu'il se propage, il faut le traiter dans les 10 ou 15 minutes qui suivent son déclenchement. Mmh. Et donc évidemment, si un Canadair, un Dash, un bombardier d'eau est basé, comme la plupart le sont, à Nîmes, et qu'on a plusieurs centaines de kilomètres à faire pour aller attaquer un départ d'incendie, ce n'est plus possible. Donc il faut multiplier les bases de stationnement de ces moyens aériens et puis pas simplement les concentrer là où ils sont aujourd'hui pour pouvoir attaquer en amont dès le déclenchement de l'incendie. Et puis après, il y a une question de responsabilité. C'est-à-dire que tous ces incendies n'ont pas une origine accidentelle ou naturelle. Il y a des personnes...
Non, mais ils sont attisés.
Il y a des personnes qui, manifestement, ont déclenché certains incendies. Et c'est aussi maintenant à la justice d'être impitoyable avec tous ceux qui, pour des raisons que personne ne peut comprendre, déclenchent ces incendies qui détruisent notre biodiversité.
Lieutenant-colonel Arnaud Mandous, du point de vue de la prévention, quelle piste on peut améliorer aujourd'hui?
Écoutez, au niveau de la forêt des Landes de Gascogne, cette conscience justement de la nécessité de la prévention est très très importante maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Nous travaillons vraiment d'arrache-pied avec les propriétaires forestiers, avec les élus, justement pour aménager au mieux la forêt pour nous faciliter les opérations de lutte lorsque malheureusement un feu intervient. Et bien entendu, nous prenons en compte justement les problématiques de réchauffement climatique et nous adaptons aussi nos techniques opérationnelles.
Le dérèglement climatique qui se répercute directement, qui attise ces feux d'origine accidentelle, criminelle, dans la plupart des cas pour l'instant.
Alors, on sait qu'en général, 90% des départs de feux de végétation sont d'origine humaine. Mmh. Et parmi ceux-là, effectivement, il y a aussi des causes criminelles.
Oui, nous avons un Office national des forêts qui fait des propositions régulièrement pour protéger nos forêts. Nous avons des communes, des intercommunalités également qui s'en préoccupent. Et je voudrais souligner que notamment sur le secteur de la Gironde, on voit bien qu'il y a depuis quelques années, sous la poussée d'élus écologistes, il y a une demande de ne pas élaguer, de ne pas faire d'itinéraire, de couper les forêts en deux pour faire des passages, pour éviter les transmissions, la propagation rapide d'un feu. Et il y a à peu près un an, je crois, à vérifier, il y a des élus écologistes qui se sont opposés à cet élagage et à ces percées, ces chemins de percées élagués, nettoyés, débroussaillés pour pouvoir limiter la propagation d'un feu. Et on voit là aujourd'hui le résultat. Donc il faut réfléchir. Oui, on peut protéger la biodiversité. Bien évidemment, il faut le faire. Mais il faut aussi protéger nos forêts qui, dans leur ensemble, représentent la biodiversité. Donc parfois, il faut s'écouler à l'intérieur des forêts pour empêcher la propagation des feux.
Pierre-Henri Dumont.
Oui, je partage ce que dit Agente, mais il y a aussi un autre aspect, c'est toutes les normes, les contraintes qui ont été rajoutées, en particulier sur les collectivités territoriales, qui n'ont plus le droit de débroussailler, qui n'ont plus le droit d'utiliser certains produits, et qui, au final, du coup, laissent des bas-côtés totalement pas entretenus, avec des herbes très hautes, et on se retrouve dans des situations où le feu peut beaucoup plus se propager. Donc, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc,
Pas partout, si je puis me permettre, parce que dans mon département où je suis élue municipale, tous les bas-côtés, justement, j'y suis arrivée pour le week-end du 14 juillet, tout avait été nettoyé. Et justement, je me suis dit, tiens, ont-ils anticipé le risque d'incendie réel?
Mais tout avait
été nettoyé, débroussaillé.
Donc, tant mieux, mais ça veut dire qu'il faut aussi, parce qu'on a mis des contraintes supplémentaires, par exemple avec le zéro phyto, qui peut être une bonne mesure, mais qui coûte beaucoup plus cher pour les collectivités, puisqu'évidemment, c'est plus de moyens humains, plus de moyens matériels. Et donc, il y a aussi une question qui doit se poser sur l'accompagnement des collectivités, parce que toutes les collectivités ne peuvent pas le faire. Et malheureusement, l'entretien des bas-côtés des routes ou des abords de forêt n'est pas forcément dans les priorités des collectivités. Quand il s'agit de faire des choix budgétaires, les collectivités ont des budgets contraints, ils ont moins de leviers fiscaux, en particulier avec la suppression de la taxe d'habitation, puisque ce n'est plus eux qui lèvent l'impôt. Et donc, à partir de là, il est nécessaire de leur donner plus de moyens techniques pour pouvoir attaquer et avoir cette prévention nécessaire face à cette propagation des feux de forêt l'été en particulier.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces incendies qui sévissent actuellement en Gironde, et pas seulement, il y en a également en Bretagne. Merci, lieutenant-colonel Arnaud Mandouze, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes officier
Merci
de communication pour le SDIS de la Gironde. Anne-Jeanette, Pierre-Henri Dumont, vous restez avec nous. On va parler du projet de loi pouvoir d'achat juste après une petite pause. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
Nous sommes avec Anne Jeunetet, députée Renaissance des Français de l'étranger, Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. Nous débattons avec eux du projet de loi pouvoir d'achat qui est à l'Assemblée nationale en examen depuis hier. Mais avant cela, le rappel de l'essentiel de l'actualité avec vous, Émilie Dez. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La Gironde, toujours ravagée par les flammes. En une semaine, les deux gigantesques incendies de la Teste de Buch et de l'Andiras ont déjà détruit plus de 19 000 hectares. Au total, 37 000 personnes ont été évacuées. À la Teste, les 5 campings qui bordent la dune du Pilat sont détruits à 90%. Un EHPAD a été évacué à titre préventif. Dans la nuit, à l'Andiras, un homme est toujours en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir volontairement déclenché l'incendie. Le Finistère n'est pas épargné non plus par les incendies. Plus de 1400 hectares ont été ravagés sur les monts d'Arrée. 500 personnes ont été évacuées. Et alors que la fraîcheur est revenue sur la façade atlantique, la canicule se déplace vers l'est. 73 départements sont en vigilance orange avec des températures comprises entre 37 et 40 degrés à l'ombre. L'État lance une OPA de 9,7 milliards d'euros pour renationaliser EDF. L'État, qui détient déjà 84% du groupe, prévoit de débourser 12 euros par action. L'action EDF est de nouveau cotée ce matin après l'annonce du gouvernement. Elle a bondi de 15%. Elle a été victime d'un malaise dans la région de Tours où elle résidait. La chanteuse Dani est morte à l'âge de 77 ans. Elle avait connu un comeback en en 2001 avec la chanson Comme un boomerang en duo avec Étienne Dao. Et puis le Tour de France, 16e étape aujourd'hui, 178 500 km entre Carcassonne et Foix avec deux cols de première catégorie au programme.
Merci Émilie Dez qui vous informe jusqu'à 17h sur Europe 1. Nous reprenons notre discussion, deuxième jour d'examen du projet de loi pouvoir d'achat. Ça va reprendre vers 15h tout à l'heure, en tout cas après les questions au gouvernement. Un peu plus tard, vous me dites, très bien. Climat toujours un peu plus lourd au moment de décortiquer, de voter près de 1000 amendements déposés par les oppositions aux commissions. Ces mêmes oppositions qui se déchirent entre elles. Rassemblement National accuse la France Insoumise d'être des bouffons rouges. C'est ce qu'on a entendu hier au Palais Bourbon. LFI accuse RN d'être le sosie vocal d'Emmanuel Macron. Puis l'un, puis l'autre quitte la séance. Dans vos deux groupes, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le spectacle, le match pour le leadership de l'opposition. On compte les points. Anne Gente.
Je m'attriste surtout du fait que ça nous fait prendre un très grand retard pour un projet que beaucoup de Français attendent. Et ce retard qui est provoqué par ces deux groupes d'opposition, Rassemblement National d'un côté, France Insoumise de l'autre, sont terriblement préjudiciables aux Français qui en ont besoin. C'est ça que je regrette avant tout.
Pierre-Henri Dumont, il y a...
C'est profondément ridicule, ça donne une très mauvaise image de l'Assemblée. Pendant que les Français souffrent, les Français ont du mal à faire un plein d'essence, il suffit d'aller à la pompe. Moi, dès que je vais faire le plein, avant moi, on voit souvent des 15, des 20, des 25 euros à la pompe. C'est bien la preuve que les Français n'arrivent plus aujourd'hui à faire un plein d'essence. Ces gens qui pensent être dans une cour de récréation et qui se lancent des invectives, qui cherchent plus à essayer de faire le buzz, faire leur petite vidéo de 2 minutes pour les réseaux sociaux, pour jouer au meilleur opposant. Nous, vous savez, chez les Républicains, on est dans l'opposition Emmanuel Macron. Mmh. On l'a toujours dit. On est une opposition ferme, déterminée, mais responsable. Donc on n'est pas là pour créer des incidents de séance, on est là pour faire avancer le débat, faire évidemment avancer nos propositions. Mais hier, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on a eu ce concours d'invectives, d'insultes, entre le Rassemblement National et la France Insoumise, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et on a pu examiner simplement 55 amendements en 6 heures. Mmh. C'est ça la réalité des choses.
Sur 1000, hein.
Sur plus de 1000 amendements.
Il en reste 480 à peu près.
Ouais, il y en a beaucoup qui ont été, il y en a la moitié qui ont été jugés irrecevables par le président de la Commission des Finances.
Typiquement la France Insoumise qui veut renommer la prime Macron, et prime
en
fumage.
On a passé voilà. Une demi-heure hier à débattre sur la prime en fumage. Est-ce que ça apporte quelque chose aux Françaises et aux Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Ça apporte strictement rien. Voilà. Ce sont des bouffonneries. Et les deux, que ce soit le Rassemblement National ou la France Insoumise, sont en train de présenter un piètre spectacle de ce qu'est la politique. Et pour des gens qui voulaient, en tout cas, essayer de revigorer l'Assemblée nationale, on est plutôt en train de voir qu'ils sont en train de la bloquer, alors qu'au contraire, par la discussion, par le compromis, par la main tendue, entre d'un côté le gouvernement, la majorité, et de l'autre côté les différentes
voilà,
oppositions.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie,
il peut y avoir des propositions.
Vous saisissez donc la main tendue par Bruno Le Maire hier, qui en introduction appelait donc au compromis, pas au dérapage budgétaire. Restez bien dans les 20 milliards de budget prévus. Quel point d'accord il y a, quoi, la défense de la valeur travail et vigilance des comptes publics.
Vigilance des comptes publics, évidemment. Évidemment que c'est extrêmement important, mais ce qui est aussi important, c'est que les Français qui travaillent gagnent toujours plus que ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas. Il y a certaines mesures qu'on va voter. La déconjugalisation de l'allocation d'adulte handicapé, c'est nous qui l'avions porté avec les Républicains, avec Aurélien Pradier lors du précédent mandat. Par 3 fois, ça a été rejeté par la majorité macroniste. Bon, cette fois-ci, ils ont cru comprendre qu'il était nécessaire de le voter, donc tant mieux. Là, l'exonération totale de fiscalité pour les heures supplémentaires, c'est quelque chose que nous avions proposé lors d'une niche parlementaire par la voix de Julien Dive, le précédent quinquennat. Ça avait été rejeté par la majorité En Marche. Là, il semble qu'ils sont d'accord pour le prendre, donc tant mieux. Il y a d'autres points où on n'a pas d'accord. Nous, vous le savez, on va se battre sur les 1,50€ sur l'essence parce que c'est aujourd'hui la priorité.
Pour la majorité présidentielle,
oui, alors, d'abord, voilà, je crois que c'est important.
On ne peut pas plafonner le prix de l'essence à 1,50€ le litre.
Non, parce que c'est une mesure qui coûterait 50 milliards d'euros.
C'est pas vrai.
50 milliards d'euros.
Le rapporteur général.
Chiffré. Vous allez pouvoir répondre à Anne Gente.
Ça a été chiffré et donc 50 milliards d'euros, on sait très bien que si vous-même vous étiez au gouvernement, vous ne le feriez pas, vous ne le voteriez pas. En revanche, avoir des mesures ciblées qui permettent de s'adresser à ceux qui, effectivement, ont des difficultés, ont absolument besoin de prendre leur véhicule pour aller travailler tous les jours et ont des difficultés à remplir le réservoir et mettent en effet que 20 euros d'essence quand ils peuvent mettre les 20 euros. Oui, il faut pouvoir les aider, c'est ce qu'on fait à travers d'autres mesures, mais qui ne sont pas le blocage du prix de l'essence, ni la baisse de la TVA, qui en plus ce serait une mesure qui profiterait à tout le monde et non pas uniquement à ceux qui en ont véritablement besoin.
Plafonner le prix de l'essence à 1,50€ le litre, ça ne coûte pas d'argent, ça, Pierre-Henri.
C'est pas que ça ne coûte pas d'argent, c'est que Anne Gente, comme d'ailleurs reprend les éléments de langage de Bruno Le Maire, en l'occurrence, c'est faux. Ça ne coûte pas 50 milliards. Ça coûte 20 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapporteur général du budget.
Ajouté aux 20 milliards d'euros qui sont déjà dans le projet actuel. Et aux 27 milliards qu'on a déjà déboursés depuis plusieurs mois.
Non, pardon. Le chiffrage qui a été présenté par le rapporteur général du budget, qui est de La République En Marche, c'est 20 milliards d'euros pour notre mesure. Donc c'est faux de dire que ça coûte 53 milliards, c'est quasiment trois fois moins. Voilà. Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est que les mesures qui sont présentées par le gouvernement, qui est de faire une sorte d'usine à gaz, parce que pour pouvoir bénéficier de la prime, ça peut être que pour ceux qui travaillent, ceux qui sont ont besoin de la voiture pour aller chez le médecin, ceux qui ont besoin de la voiture pour aller conduire les enfants au sport, ils n'y ont pas droit. Hein. C'est que sur certains critères. Il faut aller sur un site internet, il faut remplir une déclaration. Après, est-ce qu'il y aura des contrôles ? Pas de contrôle, etc. C'est une usine à gaz qui est faite pour que les gens ne le fassent pas. Voilà, c'est ça la réalité. La seule mesure concrète, c'est pas d'augmenter les taxes comme ça a été fait par le gouvernement lors du précédent quinquennat. Ils ont commencé par augmenter la TICPE dès 2017 de 18 centimes d'euros.
À l'origine des gilets jaunes, ça remonte maintenant.
Non, mais c'est ça, mais c'est toujours en place. C'est-à-dire que là, la ristourne...
Là, ils veulent supprimer une taxe, ils veulent supprimer la redevance télé.
C'est-à-dire que la ristourne de 18 centimes qu'ils sont en train de faire au niveau du gouvernement, c'est exactement ce qu'ils avaient augmenté en 2017. Donc en fait, c'est un gouvernement qui augmente les taxes de tout le monde et qui après donne 10%, 15% des taxes qu'il collecte en disant « Tenez mon brave monsieur, voici une obole pour vous ».
Je ne peux pas laisser dire ça, vous savez très bien qu'on a baissé les impôts comme jamais dans le précédent quinquennat et qu'on a absolument, on se tient à cette ligne-là, pas de hausse d'impôts. Pas de hausse de la dette. Et c'est ça qui est notre fil conducteur pour mettre en place ces propositions sur le pouvoir d'achat, dont les trois quarts, d'ailleurs, je voudrais préciser, bénéficient aux classes moyennes. Et ça me paraît extrêmement important de le souligner avec différentes mesures de l'indemnité carburant, mais aussi la hausse des retraites qui vont concerner absolument tout le monde, la hausse du point d'indice des fonctionnaires.
Nous sommes allés interroger les classes moyennes, ceux qu'on appelle les classes moyennes. Maximilien Carlier s'est rendu dans une famille de Lille et eux, ils ont plutôt le sentiment d'être des oubliés. Écoutons.
Guillaume et Alice ont deux enfants en bas âge. Elle est infirmière, lui est enseignant. À eux deux, ils gagnent 4500 euros par mois, payent des impôts et se sentent un peu délaissés.
Aujourd'hui, nous, notre constat, c'est qu'on a l'impression d'être un peu les vaches à lait de l'État. C'est-à-dire qu'on a l'impression de donner beaucoup à l'État, mais de recevoir très peu. À ce jour, la seule aide à laquelle on a le droit, c'est 134 euros pour nos deux enfants à la CAF par mois.
Pas de prime à la naissance, pas de prime à la conversion non plus pour l'achat d'un véhicule électrique. Rien, regrette ce fonctionnaire. Pour lui, ce sont d'ailleurs toujours les mêmes qui font des efforts.
On veut bien payer, c'est tout à fait normal d'avoir une politique de redistribution, mais il faut aussi qu'elle soit cohérente avec tout le monde. Avec 4500 euros par mois, certes, on ne fait pas partie des plus pauvres, nous ne sommes pas à plaindre, mais on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut.
Surtout en ce moment, avec les hausses du prix du carburant, de l'énergie, dernier renoncement du couple, des vacances plus proches de chez eux car moins chères. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Anne Jeuntet, quand on gagne 4500 euros par mois à deux, alors, on n'a pas besoin d'aide.
D'abord, 4500 euros à deux par mois, c'est au-dessus d'un double revenu, du revenu médian. Hein, mais revenu médian, c'est autour de 1700 euros par mois. Donc, ils sont très au-dessus du double du revenu médian si chacun a gagné un revenu médian.
Ce foyer n'habite pas Paris. Hein, ils habitent Lille et ils ont l'impression quand même
absolument
de voir leur pouvoir d'achat.
Mais je voudrais quand même rappeler qu'on leur a supprimé la taxe d'habitation. C'était une mesure de baisse d'impôts. On va leur supprimer la redevance télévision. Ils parlaient du vélo électrique. Je suis navrée, mais il y a eu un plan vélo qui permettait justement de participer à l'acquisition d'un vélo, à la réparation d'un vélo. C'est avec ce plan mobilité. Donc non, ils ont bénéficié de certains avantages. Mais aujourd'hui, ceux qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, à se chauffer quand viendra l'hiver et à faire le plein de leur voiture pour aller travailler absolument tous les jours, oui, ce sont des gens qui gagnent à l'évidence moins qu'eux. Maintenant, tout le monde pourrait vouloir bénéficier de quelque chose, mais soyons réalistes, nous sommes dans une démarche, encore une fois, la ligne conductrice, c'est pas de hausse d'impôts, pas d'augmentation de la dette. Et ça nécessite de répartir avec cet État qui sait répartir et redistribuer comme nous l'avons toujours fait.
Pierre Ridu.
Moi, j'ai fait un petit calcul. Quand vous avez un couple où les deux gagnent chacun 1800 euros net par mois, ils ne bénéficient pas de l'aide, par exemple, au déplacement et à l'essence qui est proposée par l'État. C'est des personnes qui peuvent avoir s'ils ont chacun une voiture, s'ils travaillent dans deux endroits différents, ils ont pour 500 euros d'essence par mois pour aller travailler, juste pour aller travailler. Donc vous vous rendez bien compte que c'est intenable. C'est intenable parce qu'au final, il va se passer quoi ? En effet, ils ne vont plus pouvoir aller travailler. Certains vont renoncer à un travail. On a une vague de démissions aujourd'hui dans le monde du travail, aussi au niveau de l'essence. Une personne qui gagne le SMIC, qui a un travail à 30 km de son lieu d'habitation, si elle doit continuer à payer 250 euros d'essence par mois pour aller travailler, elle ne rentre pas non plus dans les critères parce que c'est juste à la limite du seuil géographique pour aller bénéficier de la prime qui est d'essence. Elle ne va pas aller travailler. elle a plus intérêt à rester chez elle et à toucher des aides. Et vous voyez, c'est bien toute la logique qu'on combat, nous, dans ce projet de loi. Pourquoi ? Parce que vous avez une augmentation, par exemple, des minima sociaux, qui est une augmentation de 4%, alors qu'à côté, le SMIC, lui, n'augmente que de 2%. C'est quel message on envoie là ? On envoie le message que ceux qui touchent les allocations chômage, ceux qui ont démissionné de leur travail, eux ont des augmentations de minima sociaux de 4%, alors que ceux qui travaillent, qui se lèvent tous les matins pour gagner peu, n'ont pas le droit de toucher la prime essence.
Mais vous oubliez de rappeler que ceux qui sont au SMIC ont gagné également avec la prime d'activité notamment, ils ont un revenu qui est de l'ordre de 1500 euros par mois.
Et leur augmentation de salaire est deux fois inférieure à l'augmentation des minima sociaux. Voilà, c'est ça qu'on combat. Nous, on pense que le travail doit toujours mieux payer que l'assistanat.
Nous sommes d'accord.
Et vous parliez tout à l'heure de la suppression.
C'est ce qui a été fait sur le SMIC depuis longtemps, bien avant même la crise actuelle.
Et vous parliez tout à l'heure de la suppression de la taxe d'habitation. Mais la suppression de la taxe d'habitation, ça entraîne quoi ? Ça entraîne qu'il y a simplement plus aucun levier fiscal pour les communes, à part la taxe foncière bâtie.
Ça a été compensé.
Et donc, c'est pas un levier fiscal, c'est-à-dire que c'est une dotation.
C'est une dotation.
Donc la commune n'a pas moyen d'augmenter les taux, ou très très peu, à moins, c'est-à-dire qu'elle réinstaure un nouvel impôt sur l'impôt qui est compensé. Et donc, les communes ne le font pas, le font très très peu. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que le seul levier fiscal pour les communes, c'est la taxe foncière bâtie. Qui paye la taxe foncière bâtie ? C'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est pas ceux qui vivent en logement social, c'est les classes moyennes. Ce sont les classes moyennes qui le payent. C'est celles qui ont dû s'endetter sur 30 ou 30. Non, pas le foncier bâti, bah non. C'est ceux qui ont dû payer sur 30 ou 35 ans prendre un emprunt pour s'acheter un petit pavillon et qui payent tout plein pot, qui n'ont aucune aide pour que leurs enfants...
Mais les propriétaires fonciers bâtis ne sont pas que des classes moyennes.
Mais en grande majorité, oui. En grande majorité, ce sont des classes moyennes, bien sûr. Bien sûr, ce sont celles qui achètent, je vous dis, un petit pavillon en s'endettant sur 25 ou 30 ans.
Qu'est-ce qu'on fait, en fait ?
Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ?
On donne des aides à qui ? Ou on n'en donne pas du tout ?
Ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire des mesures d'économie. On en a proposé plusieurs au niveau des Républicains. On a proposé 15 milliards d'économies sur la débureaucratisation des administrations. On a proposé 5 milliards d'euros d'économies sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale, en particulier avec l'instauration d'une carte vitale biométrique pour lutter contre les fraudes. Quand on voit le nombre de cartes vitales en circulation, en particulier avec des prestations versées dans des pays étrangers, au Maghreb, ça c'est des propositions.
On sort du cadre du projet de loi pouvoir d'achat. Là.
Bah non, c'est un projet de loi de finances rectificative qui a lieu d'ici la fin de semaine,
qui permet
de financer. Pour financer des opérations comme on propose d'1,50€ le litre d'essence, il faut bien avoir des économies. Nous sommes responsables. Nous présentons des pistes d'économies.
Il ne faut pas seulement avoir des économies, il faut aussi créer de la richesse.
On propose de supprimer l'objectif de plein emploi.
J'aimerais qu'on parle d'EDF après.
Voilà, l'objectif de plein emploi que nous poursuivons est essentiel, car à travers le travail, les emplois que l'on crée et les cotisations que ces emplois génèrent, c'est comme ça qu'on crée de la richesse et des recettes qui permettent après de redistribuer à ceux qui en ont besoin.
Le projet de loi de finances rectificative qui intégrera la renationalisation d'EDF, on l'a appris ce matin, le gouvernement va lancer une OPA à 9,7 milliards d'euros pour acquérir les 15,9% du capital qui ne sont pas encore nationalisés. À 12 euros l'action, elle valait, l'action, on l'a dit tout à l'heure, en 2005, 32 euros. Tiens, comment les Républicains vont réagir au Parlement ? Vous allez accorder les crédits nécessaires ?
Oui, là-dessus, on n'a pas de sujet. On n'a pas de sujet sur la renationalisation. Nous, il y a simplement quelques questions qu'on se pose. La première question qu'on met sur la table, c'est oui, ça va coûter cher, mais c'est un choix qui est un choix politique. On peut comprendre dans cette volonté d'avoir une indépendance, une souveraineté énergétique qui est rendue de plus en plus cruciale avec la guerre en Ukraine. La question qu'on pose simplement, c'est pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça ? L'action valait 8 euros. Avant le discours de politique générale de la Première ministre. Aujourd'hui, c'est à 12. C'est-à-dire que ça a augmenté de 50% suite à la déclaration de politique générale. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup politique, un coup COUP, fait par la Première ministre d'annoncer lors de son discours de politique générale cette renationalisation qui va coûter 3,5 milliards à la France. Parce que si on avait fait une OPA sans prévenir les actionnaires, ceux qui veulent acheter des actions, on aurait pu économiser 3,5 milliards parce que là il y a eu de la spéculation sur l'action EDF et moi je me pose une question, il faudra voir aussi si dans ceux qui étaient au courant des différents projets, il n'y a pas eu des actions qui ont été achetées auparavant sur EDF et qui ensuite ont profité.
Les actionnaires vont perdre de l'argent.
Toute annonce d'OPA est forcément suivie d'un rebond sur le cours de l'action, ça se voit toujours.
Plus 50%. Attention.
Donc voilà, donc c'est tout à fait normal. Il ne fait bien que ce soit annoncé. Le gouvernement ne l'aurait pas dit, vous auriez hurlé à l'absence de transparence. Il est normal que le gouvernement l'annonce. Ça s'est fait au moment du discours de politique générale. C'est une bonne chose et ça n'est pas une offre hostile. C'est une offre qui est construite et qui est annoncée, qui est claire, qui est transparente et qui permet surtout d'aller vite, car si on avait fait une loi de nationalisation, ça allait beaucoup, beaucoup plus lentement. Donc c'est une bonne chose que ça ait été fait de cette manière-là et ça bénéficiera encore une fois à notre souveraineté énergétique, c'est essentiel d'un côté, et d'autre part à l'accompagnement urgent de la transition écologique.
Pierre-Henri Dumont, on y reviendra.
Oui, la deuxième question qui se pose, c'est de savoir si le projet Hercule est toujours sur les rails. Le gouvernement avait comme
c'était
projet...
C'était clairement dit, c'est non.
Non, ça a été suspendu, ça n'a pas été annulé. C'était suspendu avant la campagne présidentielle, c'était le projet Hercule est suspendu. Voilà. Il n'y a pas eu d'annulation officielle du projet Hercule. Est-ce que le projet Hercule qui visait à ce que EDF se sépare de ses activités, en particulier des barrages hydroélectriques qui sont amortis, qui sont les plus rentables et qui permettent d'investir à côté grâce aux bénéfices qu'on fait dessus sur par exemple la construction de nouvelles centrales nucléaires, est-ce que ce projet est annulé ou pas? On n'a toujours pas de réponse.
Alors officiellement, cette renationalisation d'EDF, c'est pour relancer la politique nucléaire, énergétique, également investir dans les énergies renouvelables. Mais en fait, on peut se poser la question aussi si le gouvernement ne voulait pas sauver EDF de la banqueroute.
Non, je crois qu'il s'agit de, dans société le contexte
qui a
actuel,
beaucoup d'argent,
que notamment que les fameuses EPR. Rappelé, il s'agit vraiment de reprendre le contrôle sur la fourniture d'énergie en France. C'est vraiment ça l'objectif. Il s'agit de verrouiller finalement, de maîtriser notre souveraineté énergétique. Et ça se fait notamment à travers l'accélération du programme de développement d'un nouveau parc nucléaire, notamment avec les petits réacteurs nucléaires, mais pas seulement, également un certain nombre d'EPR qui ont été annoncés par le président. Et d'un autre côté, en même temps, pouvoir accélérer, piloter, mieux piloter cette indispensable et urgente transition énergétique avec le déploiement, le soutien au déploiement des énergies renouvelables. Voilà, donc c'est ça l'objectif qui est poursuivi avec cette renationalisation d'EDF. Il s'agit d'être plus agile, plus souple, plus rapide.
Pierre-Henri Dumont, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, mais bon. Vraiment, moi, j'insiste sur le fait qu'il faut avoir une politique énergétique cohérente. Je note que le gouvernement maintenant fait le choix du nucléaire, ce qui n'était pas le cas au début du quinquennat précédent, où ils ont fermé Fessenheim et où ils avaient annoncé la fermeture de 17 réacteurs, qui sont a priori revenus dessus, dont deux à Gravelines, pour que les investisseurs aient confiance et que l'État soit pilote d'une vraie politique énergétique souveraine et indépendante. Il faut de la clarté. C'était pas très clair lors du précédent quinquennat, ça allait un peu plus, tant mieux. Nous, chez les Républicains, on a toujours été très clair, on est pro-nucléaire.
Voilà, vous aurez l'occasion d'en reparler tout à l'heure durant les questions d'actualité au gouvernement, la renationalisation d'EDF. Tiens, ça aussi, ce sera peut-être une question qui sera évoquée tout à l'heure dans l'hémicycle. La polémique Caroline Cayeux, ministre chargée des collectivités territoriales, de nouveau ciblée par une tribune parue il y a deux jours dans le journal du dimanche, intitulée « À tous ces gens-là », texte signé par des personnalités comme Manuel Valls, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, Michel Rubirola, première adjointe à la mairie de Marseille. Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, également signe la tribune. Il dénonce des propos qui meurtrissent et interrogent. Il demande si le gouvernement cautionne la position homophobe de la ministre. Le gouvernement cautionne-t-il ce positionnement de Caroline Cayeux, Anne Jonnetet?
Non, pas du tout. Je crois qu'il a été très clair. Elle a présenté ses excuses. Je crois qu'il faut maintenant clore ce chapitre. Elle a eu des propos tout à fait malheureux. Elle le comprend maintenant. Et je comprends tout à fait ceux qui ont pu être blessés par ces propos.
Y compris le ministre des Transports, Clément Beaune.
Bien entendu, et qui était l'un des premiers à réagir. Je crois que voilà, le chapitre est clos maintenant. Elle a présenté ses excuses. Maintenant, on part sur une base saine. Elle a même dit qu'elle soutenait certains des projets de loi qu'on avait présentés dans le mandat, dans le quinquennat précédent. Avançons maintenant et occupons-nous des Français, c'est le plus urgent.
Voilà, Caroline Cayeux qui soutenait les manifs pour tous hein, au moment du débat sur le mariage homosexuel en 2013 et qui tente par tous les moyens de s'expliquer et qui donc a eu cette formule malheureuse en parlant de ces gens-là, en parlant de la communauté LGBT. Elle doit démissionner, Caroline Cayeux, Pierre-Henri Dumont.
Je ne suis pas de ceux qui réclament des démissions à corps et à cri. Simplement, je note deux choses. Il y a deux points différents. Il y a le fait de participer à des manifestations contre un projet de loi à une époque où c'était il y a 10 ans maintenant. Je ne suis pas certain que ça veut dire qu'il faille aujourd'hui démissionner et que tous ceux qui ont participé à ces manifestations, parce qu'ils croyaient que c'était un mauvais texte de loi, doivent aujourd'hui battre leur couple et se retrouver dans une situation de devoir démissionner. Par contre, après, il y a ces propos qui sont des propos qui sont maladroits, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a présenté ses excuses, dont acte. En tout cas, je pense que les collectivités ont besoin d'un accompagnement fort aujourd'hui, qu'ils ont besoin d'avoir un ministre. Moi, je connais très bien son directeur de cabinet, puisque c'est l'ancien préfet du Pas-de-Calais qui est arrivé en poste il y a quelques jours. Et donc, je pense que le plus urgent, c'est maintenant d'accompagner les collectivités, en particulier avec l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, alors, qui va coûter excessivement cher aux collectivités territoriales, qui ne sont pas compensées, qui, je le répète, n'ont plus moyen de lever l'impôt, hormis la taxe foncière bâtie, qui impacte majoritairement la classe moyenne.
C'est budgété à 3,7 milliards.
C'est ça, et moi, j'ai fait les calculs dans la commune de Marcq-en-Calaisis, ça nous coûte 150 000 euros pour une grosse centaine d'agents par an. Voilà. Et ça, on n'est pas compensé par l'État. Ce n'est pas possible, on ne sait pas faire. Et donc, à côté, bah, si on veut lever le quelques impôts qui nous restent, c'est augmenter les tickets de cantine, c'est diminuer d'une semaine ou deux les centres aérés pour les gamins, c'est supprimer la colonie de vacances. Nous, on ne va pas le faire. Mais en tout cas, c'est les choix politiques, budgétaires qu'on doit faire les collectivités. Et ça, c'est quand même bien plus important que de savoir les propos et les déclarations de tel ou tel ministre. Est-ce que les collectivités seront compensées pour continuer à avoir du service public de proximité face à cette hausse du point d'indice des fonctionnaires, qui est très bien pour les fonctionnaires, mais qui va fortement impacter les finances des collectivités territoriales?
Anne Jontet, je vous laisse répondre très vite si vous voulez.
Non, juste dire que ça sera justement l'objet des débats qui vont venir et je pense qu'on les suivra avec attention. Bien évidemment, il s'agit d'accompagner les collectivités territoriales également et Mme Caillot sera justement là pour ça et je n'ai pas de doute sur les compétences et les qualités qu'elle pourra y développer.
Et ça se passe à l'Assemblée nationale et sur Europe. Merci Pierre-Henri Dumont, merci Anne Jontet d'avoir participé au débat d'Europe Midi. Dans quelques instants, on prend la route du Tour de France. Restez avec nous.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour dans Europe Midi, tout de suite, le Tour de France.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy. Tout de suite, sur la route du Tour.
Le Tour de France sur Europe 1 avec Richard Virenque.
La route du Tour où nous attendons que Richard Virenque. Bonjour Richard.
Bonjour, bonjour à tous.
Cette 16e étape entre Carcassonne et Foix a commencé. C'est un terrain accidenté avec notamment des pourcentages raidissimes sur le mur de Péguerre. J'espère que je le prononce bien. C'est la dernière difficulté du jour, un col de catégorie 1.
Exactement. Il y a deux ascensions dans les 50 derniers kilomètres. Donc le final est propice à du mouvement de course, à des attaques. On a eu une journée de repos, donc les coureurs ont pris un peu de fraîcheur, mais là, ils vont repartir dans la chaleur. Et on aura trois jours dans les Pyrénées, trois jours compliqués, trois jours difficiles. Ça va être là où il va y avoir, on va dire, le classement général va s'établir. Espérons que les Français vont revenir au classement général. Romain Bardet, 4e, et David Gaudu, 8e. Donc tout est possible encore pour les Français.
Et en tête, Tadej Pogacar, donc le challenger, le dauphin du maillot jaune Vingegaard, pourrait être attaqué aujourd'hui. Il doit le faire même, hein, j'ai envie de dire.
Ah oui, c'est obligatoire. Hein. S'il veut remonter, il est à 2 minutes 20 au classement général. Pogacar doit lui reprendre, on va dire, dans l'espace de ces 3 jours. L'idéal, c'est qu'il lui reprenne au moins une bonne minute 30. Et comme il reste un dernier contre-la-montre dans quelques jours, tout est possible encore pour Pogacar. Hein. Donc, il va y avoir un duel à tous les étages, on va dire, pour les victoires d'étape, pour le classement général, pour le maillot à poids qui va s'établir dans les prochains jours. Donc, ça va être très intéressant, regardez.
Alors, on a appris ce matin que dans l'équipe AG2R Citroën, 3 nouveaux coureurs avaient été contrôlés positifs. Il y en a plus que 2 dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Eh ben, c'est bien triste tout ça, hein, parce que le Covid s'est installé. Et ben voilà, donc malheureusement, on paye cher. Hein, l'équipe AG2R paye cher de ces cas positifs. Et encore, ils ne sont pas vraiment placés au classement général, mais c'est dramatique. Imaginez-vous le maillot jaune ou Pogacar positif dans les prochains jours. Ça doit trembler dans le peloton, hein, parce qu'attraper le Covid, vous savez, vous l'attrapez comme ça, sans vouloir, sans le savoir, et c'est bien triste.
Merci beaucoup, Richard Virenque, que l'on retrouve tous les jours dans Europe Midi et dans Europe Soir. À ce soir.
Le Tour de France. L'émotion vélo est sur Europe 1.
Merci de votre fidélité à Europe 1 tout l'été. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'Europe Midi. Dans quelques instants, les meilleurs moments de la France bouge avec Elisabeth Assayag. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous.